autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour tenter de comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes. Des êtres à la fois uniques et singuliers, mais aussi des héritiers porteurs de toute l'histoire de l'humanité et même du vivant dans son ensemble. Pourquoi et comment tout cela est inscrit dans notre ADN, dans 2 mètres d'ADN très précisément, 46 chromosomes et 25 000 gènes qui nous différencient et nous relie à la fois. C'est ce mystère, cette odyssée des gènes. Nous savons que nous abritons autant, voire plus de gènes bactériens qu'humains, que nous dévoile notre invitée, la professeure d'anthropologie génétique Evelyne Heyer, dans La vie secrète des gènes, parue aux éditions Flammarion. Histoire de nous rappeler pourquoi nous sommes tous cousins, tous migrants, tous reliés et tous différents, nous vous proposons de réécouter cet entretien diffusé une première fois le 9 novembre dernier autour de la question « À quoi jouent nos gènes ?» Bienvenue pour un voyage à remonter le temps et la formidable saga de notre humanité que l'on découvre toujours plus buissonnante et métissée, comme nous le rappelait ici même le célèbre pionnier de la paléogénétique Svante Paabo, lauréat du prix Nobel de médecine 2022 pour le séquençage des génomes de Néandertal et Denisova.
Pour résumer, qu'avons-nous appris en étudiant les génomes des humains d'aujourd'hui et des humains disparus? Nous apprenons peut-être plusieurs choses. Mais je pense qu'il est important de souligner que la leçon est que nous nous sommes toujours mélangés. Nous nous sommes mélangés avec ces premières formes d'humains, peu importe où nous nous sommes rencontrés et où nous nous sommes mélangés depuis.
Mélangés, métissés et tous issus de migrants, vous partagez avec le paléogénéticien désormais prix Nobel, Svante Paabo, cette leçon d'humanité, Evelyne Heyer. Bonjour.
Ah oui, bonjour, oui, tout à fait. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec cet extrait. C'est vraiment ce qu'on retrouve quand on analyse l'ADN d'êtres humains actuels. C'est tous ces mélanges qu'il y a eu et qu'il y a toujours eu, soit à l'intérieur de notre espèce, soit avec finalement des espèces différentes, maintenant disparues, comme Néandertal et Denisova.
Alors, vous êtes, je le rappelle, Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, où vous menez vos recherches sur l'évolution génétique et la diversité de notre espèce humaine. Une seule espèce, hein, aujourd'hui sur Terre, on le rappelle. Vous êtes aussi commissaire scientifique au Musée de l'Homme. On se souvient notamment de Nous et les autres. Magnifique exposition. Autrice, entre autres, de L'Odyssée des gènes. Ouvrage remarquable et remarqué, traduit déjà dans une dizaine de langues. Les éditions Flammarion donc viennent de publier La vie secrète des gènes, qui reprend et rajoute quelques-unes de vos chroniques radiophoniques sur France Inter. Car vous aimez bien, Evelyne Heyer, faire passer votre science, la génétique des populations, l'anthropologie, et d'autant plus en tordant le cou au passage à pas mal d'idées reçues sur les races, par exemple. On peut commencer par là. Est-ce que ça existe, les races?
Non. Enfin, d'après les données génétiques, on voit bien qu'il y a très peu de différence entre les différents groupes humains qu'on appelait les races. Or, dans l'idée de race, il y avait quand même l'idée de boîte fermée, les unes clairement séparées les unes des autres. Mais bon, il y a de la différence, il y a quand même de la diversité.
C'est ça, il y a de la diversité.
Voilà, ouais. Et finalement, le racisme, ça va plutôt être la valeur morale qu'on va mettre sur cette diversité. Est-ce qu'on met une hiérarchie? Est-ce qu'on n'en met pas? Mais en plus, les résultats de la génétique montrent qu'il y a peu de différence entre les différents groupes humains.
Surtout aujourd'hui sur Terre, où il n'y a qu'une seule espèce, on le rappelle. Et il y a un des chapitres de La vie secrète des gènes qui porte sur la couleur de peau. Alors moi, j'ai bien envie de vous entendre là-dessus.
Ouais, alors en fait, c'est effectivement une belle histoire. C'est-à-dire que voilà, notre espèce vient d'Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de soleil. Donc, entre guillemets, pour se protéger du soleil, il vaut mieux avoir une couleur de peau noire. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fil des générations, une sélection pour plutôt des couleurs de peau foncées. Il y a environ 60-70 000 ans, on part d'Afrique, on va coloniser le reste de la planète et notamment on va dans des zones où il y a moins de soleil. Et jusque-là, pensaient que le fait d'avoir moins de soleil, ça avait entraîné un éclaircissement de la peau, parce qu'il vaut mieux avoir une couleur de peau plus claire pour mieux assimiler la vitamine D. Mais la paléogénétique, on a parlé de Svante Paabo, il a travaillé sur Néandertal et Denisova, mais il a ouvert tout un champ disciplinaire où des gens ont travaillé sur des périodes plus récentes. Et les chercheurs, en regardant l'ADN dans des gens qui sont morts il y a 6000 ans, ils ont pu regarder des petites variations génétiques qui nous donnent une idée de la couleur de peau des gens à cette époque. Et là, ça a été une grande surprise, parce qu'en fait, en Europe, donc on arrive en Europe il y a à peu près 40 000 ans, on est de couleur de peau foncée, on vient d'Afrique, mais on reste de couleur de peau foncée jusqu'à il y a seulement 6-7 000 ans.
Donc bien plus longtemps qu'on ne le pensait.
Voilà, pour l'essentiel de notre histoire européenne, les Européens de souche sont de couleur de peau foncée. L'éclaircissement va venir après pour deux raisons. D'abord, il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient et qui amènent l'agriculture en Europe et qui sont de couleur de peau plus claire. Donc par mélange. Et deuxièmement, parce qu'on a une alimentation qui devient moins riche en vitamine D. Et donc à ce moment-là, effectivement, il devient entre guillemets important en termes de survie et de reproduction d'avoir une couleur de peau plus claire.
Donc la génétique a apporté des éclaircissements, c'est le cas de le dire, à la fois sur le moment où ça s'est passé, sur le fait qu'au départ, tout le monde était de peau foncée.
Oui, et ça reste beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. En fait, un peintre des grottes de Lascaux, c'est un individu de couleur de peau foncée, vraisemblablement avec les yeux bleus. Parce que dans le nord et l'ouest de l'Europe, il y avait pas mal de gens avec les yeux bleus.
Et ce qui veut dire aussi que ça prend du temps. Ces modifications génétiques prennent quoi ? Plus de temps qu'on ne le pensait ?
En tout cas,
pas le temps qu'on imagine, nous, peut-être, aujourd'hui.
De toute façon, ça prend des millénaires.
Et c'est ça, voilà.
Et on voit bien l'adaptation de la couleur de la peau à l'ensoleillement. On le voit bien, par exemple, les individus d'origine anglaise qui sont allés coloniser l'Australie, ils ont des problèmes liés à l'ensoleillement. Ils doivent se couvrir. Les enfants sur les plages sont couverts de la tête aux pieds.
Oui, ils ne se sont pas du tout adaptés. Ça ne va
non,
pas vite.
Ça ne va pas vite à ce moment-là.
Génétique. Alors, nous sommes tous, on le rappelle aussi, tous migrants ou tous issus de migrants. C'est important de le rappeler quand même aujourd'hui, parce que notre espèce humaine et les autres précédentes, on n'a pas arrêté de bouger.
Oui, et alors notre espèce, elle est quand même particulière pour, entre guillemets, parmi les grands singes. Nous, on est allés partout sur la planète.
C'est ça.
Les chimpanzés et les gorilles sont restés assez localisés en Afrique centrale, les orang-outans en Asie, et nous, on est parmi les primates une espèce qui est vraiment allée partout. C'est-à-dire que le succès de notre espèce, on va bientôt atteindre les 8 milliards, je crois, la semaine prochaine. Le succès de notre espèce, c'est aussi cette extraordinaire capacité de migration. Ça ne veut pas dire que tout le monde bouge, même à l'heure actuelle, tout le monde ne bouge pas, mais on a quand même une propension à la migration. Et quand on regarde les migrations dans le passé, on ne voit pas de raison liée à l'écologie ou au climat ou quoi que ce soit. Donc, ça a l'air vraiment d'être une composante profonde.
De notre espèce.
De notre espèce, cette espèce de curiosité d'aller voir de l'autre côté de la colline. Mais encore une fois, je répète, c'est toujours à petite échelle. Ce n'est pas un individu qui est parti avec son sac à cadeau d'Afrique pour aller en Australie. Ça s'est fait sur des milliers d'années. C'est 10, 20, 30 kilomètres en moyenne par génération. Bien que, encore une fois, avec la paléogénétique, on voit qu'il y a des migrations à longue distance. Il y a déjà 5000 ans, par exemple, au Turkménistan, avec l'ADN, les gens ont pu montrer qu'ils avaient retrouvé un individu qui, visiblement, venait d'Europe du Nord. Donc, il y avait déjà des migrations à longue distance il y a quelques milliers d'années. Et donc, ce que je veux rappeler, c'est important. La migration, c'est quelque chose qui, entre guillemets, fait partie de notre espèce. Et donc, il faut considérer la migration avec humanité. C'est une part de l'humanité.
C'est une part de l'humanité, c'est une part de ce qui nous a fait. Alors, il y a les gènes aussi eux-mêmes, l'ADN, on parle beaucoup de l'ADN, on l'a dit, 2 mètres, je ne sais pas ce que ça représente non plus, 25 000 gènes qui font de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce que c'est que nos gènes ? Qu'est-ce que c'est que notre ADN ?
Alors, l'ADN, c'est une lettre, une série de lettres, 3 milliards de lettres dans un alphabet qui ne contient que 4 lettres, A, C, T, G. 3 milliards, ça correspond à en gros une encyclopédie de 600 000 pages. Pas mal.
Hein. C'est pas mal quand
même. Et donc, dans ce qu'on appelle cet ADN, il y a une partie qui, on est sûr que ça sert à quelque chose, c'est ce qu'on appelle les gènes. Par exemple, vous avez le gène qui code pour la couleur des yeux, qui va prendre différentes formes selon la variation qu'il y a dans ce gène. Mais vous avez une grande partie de l'ADN, ça ne représente que 2 à 3 % de notre ADN. Après ça, vous avez des parties de l'ADN qui font que ces gènes vont s'exprimer ou plus pas. Ou moins. Et après ça, vous avez toute une autre partie de l'ADN qu'avant on appelait junk DNA, c'est-à-dire ADN poubelle.
Qui servait à rien.
Qu'on pensait qu'il servait à rien, mais on se rend compte qu'il sert. Et là, c'est plus compliqué parce que ça jouerait plutôt, par exemple, dans le repliement de l'ADN. Enfin, des choses plus subtiles que tout simplement un gène et une fonction comme la couleur des yeux.
Donc voilà pour les gènes qui, tous les êtres vivants, sur Terre, ont des gènes, ont un génome, c'est-à-dire tous les autres, nous, tous les autres animaux, les végétaux, tout ce qui vit.
C'est un peu la définition du vivant. Hein.
C'est ça.
C'est
hein.
Carrément soit de l'ADN, soit de l'ARN, hein, les virus aussi. Mais c'est effectivement ce qui fait le vivant. C'est cette extraordinaire molécule qui permet de transférer de l'information d'une génération à la suivante en changeant un peu. C'est ce qu'on appelle les mutations, qui donnent de la nouveauté et sur lequel, finalement, le tri se fait et qui permet cette explosion de la biodiversité sur la planète dont nous faisons partie.
Dont nous faisons partie, ça c'est grâce... C'est donc en remontant, quand on remonte l'histoire de l'humanité, pour la remonter, c'est une vraie machine à remonter le temps que l'ADN. L'ADN ancien, on en a parlé avec Svante Paabo. On a dit aussi qu'il y avait sur Terre autrefois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, plusieurs espèces humaines différentes. Je propose donc de retrouver ce pionnier de la paléogénétique, de l'étude de l'ADN ancien, lauréat du prix Nobel de physiologie et de médecine 2022, Svante Paabo, lauréat pour ses découvertes hein, sur Néandertal et Denisova. L'homme de Denisova, parce qu'on connaît un peu mieux Néandertal, en tout cas dans les mots, l'homme de Denisova, c'est une autre espèce humaine identifiée génétiquement à partir d'un minuscule bout de phalange exhumé dans la grotte de Denisova dans les monts Altaï en Sibérie par Svante Paabo qui nous racontait dans ce studio ici même, et c'était en 2015, cet exploit de la paléontologie. On l'écoute.
Tout d'abord,
ça a été une des plus grandes surprises que j'ai connues dans ma carrière, cette découverte. Il s'agissait d'un minuscule bout d'os, la dernière phalange du petit doigt d'un auriculaire. Et on était convaincus que ce serait soit un néandertalien, soit un homme moderne. Et quand on a séquencé son ADN, on s'est aperçu que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il s'agissait d'un cousin lointain, éloigné des néandertaliens. Qui avait dû se séparer 400 000 ans auparavant. Ce serait donc comme un cousin, là encore, ou un parent très éloigné. Et il se trouve qu'on retrouve aussi leur patrimoine génétique en Asie, notamment aussi dans les populations du Pacifique. Donc, si vous avez vos racines en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Australie, eh bien, 5% de votre ADN provient des Denisoviens.
Est-ce que vous pensez, Svante Paabo, que vous pourriez tomber comme ça sur d'autres petits fragments d'os et arriver à déchiffrer d'autres génomes, enfin qu'on en est qu'au début de cette recherche paléogénétique de nos origines?
Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit non, on sait l'essentiel de ce qu'on peut savoir. Mais depuis la découverte des Denisoviens, mon esprit s'est ouvert à la possibilité que l'on puisse trouver d'autres espèces archaïques à l'avenir. La Chine est un territoire passionnant à explorer et on va sûrement au cours des fouilles faire d'autres découvertes.
Et effectivement, cette révolution paléogénétique ne fait que commencer. Evelyne Heyer, vous voulez réagir à ce que vient de dire Svante Paabo?
C'est vrai que ça a été extraordinaire quand les articles sont sortis, qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce, cette fois-ci par la génétique. C'est-à-dire c'est une espèce, finalement, on a eu son ADN avant de savoir à quoi il ressemblait. Alors depuis, il y a une mâchoire qui a été trouvée au Tibet, qui a été attribuée à Denisova, ça c'est Jean-Jacques Hublin qui a travaillé là-dessus. Il y a peut-être une dent au Laos qui serait peut-être denisovienne, mais on n'en sait pas plus, on a hâte d'avoir l'ADN de fossiles en Chine qui peut-être seraient potentiellement des Denisoviens, parce qu'on ne sait toujours pas à quoi ils ressemblent.
On ne sait toujours pas à quoi ils ressemblent, mais ce n'est pas parce qu'on a le génome, l'ADN que l'on sait à quoi ça ressemble. Il y a eu également d'énormes avancées autour de l'ADN ancien, notamment sur les croisements, alors entre Néandertal et nous, les sapiens, la révolution de l'agriculture aussi s'est inscrite dans notre génome. C'est vraiment une machine à remonter le temps, l'ADN.
Alors en fait, vous avez deux manières de remonter le temps avec l'ADN. Vous avez la paléogénétique, donc où là, ça consiste à extraire l'ADN de fossiles. Donc vous extrayez, par exemple, l'ADN d'un fossile de 6000 ans. Donc vous savez, ça vous donne une idée un peu de la diversité génétique de différentes populations à cette époque-là. Mais dans votre ADN à vous, actuellement, aussi, il y a plein d'informations. Parce qu'en fait, vous recevez la moitié de votre ADN de votre père et de votre mère qui en ont reçu la moitié chacun de leur père et de leur mère, donc vous en recevez un quart de chacun de vos grands-parents. Et donc, on peut voir votre ADN comme une espèce de mosaïque de bouts d'ADN que vous avez reçu de différents ancêtres.
On est tout ça à la fois. On est voilà. Un petit peu de
tous ces ancêtres.
Tous les ancêtres.
Bah, pas tous ceux qui vous ont transmis de l'ADN, parce que vous pouvez avoir des ancêtres qui ne vous ont rien transmis. Enfin bon, ça c'est un détail, on ne va pas compliquer.
Mais voilà pourquoi, Evine Hier aussi, aujourd'hui vous travaillez sur l'ADN actuel. Vous êtes allé recueillir avec vos équipes de chercheurs l'ADN de différentes populations pour essayer de retracer le passé, mais pas seulement. Essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, aussi nos maladies, mais aussi nos différences et nos similitudes.
Oui, il y a tout un champ. Il y a un champ, effectivement, qui est de retracer l'histoire des populations, mais il y a juste un champ aussi qui est de comprendre la diversité des populations. Est-ce qu'elles sont différentes génétiquement ? Un petit peu. Pourquoi ? Et surtout, dans quelle mesure la culture joue sur ces différences génétiques ? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est cette imbrication chez l'humain entre le biologique et culturel.
Oui, on n'est pas que nos gènes et on n'est pas que notre culture. Tout ça, ça s'influence.
Voilà. Et en plus, nous, on a cette particularité par rapport à d'autres animaux ou des végétaux, c'est qu'on transmet nos gènes, mais on transmet de la culture.
Bien
Donc
sûr.
ça joue aussi sur notre évolution, même d'un point de vue biologique.
D'un point de vue biologique, d'un point de vue culturel, nous étions plusieurs espèces humaines, on l'a dit autrefois sur Terre, à ce sujet. Je propose un nouvel éclairage inspirant pour aujourd'hui, c'est celui de l'immunologiste et grand conteur Jean-Claude Amézène, qui nous hisse souvent en podcast sur les épaules de Darwin, on l'écoute.
Un des aspects les plus fascinants, c'est cette arborisation de plus en plus riche de nos ancêtres et de nos cousins préhumains et humains. Et c'est des évidences de plus en plus importantes de métissage entre ces différentes branches. Et donc je crois qu'à la question qui avant était assez simple, qu'est-ce qu'être humain ? La question c'était, quelles ont été les étapes qui ont abouti à la naissance de nous-mêmes, de nos ancêtres, des êtres humains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être humain ? Une résonance beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressante, c'est combien de façons différentes y a-t-il eu d'être humain ? Et combien de façons possibles y aurait-il pu avoir d'être humain ? Et quelle part portons-nous en nous de ce qui constituait une petite partie de ces autres branches de l'humanité ou de nos ancêtres préhumains ?
C'est toute la vertigineuse question et les vertigineuses questions auxquelles vous vous attelez dans votre travail et dans cet ouvrage, La vie secrète des gènes, Evine Hier.
Bah oui, parce que c'est super, quoi. On voit que finalement, nous, un être humain actuel, on a un petit peu notre génome qui vient de Néandertal. Si on habite plus à l'est de la planète, on a aussi un petit peu du génome qui vient de Denisova. Et même tout simplement en Europe, on est un mélange de trois, on va dire, population, les premiers chasseurs-cueilleurs arrivés en Europe il y a 40 000 ans, les agriculteurs venus du Moyen-Orient, de Turquie, en fait, d'Anatolie, il y a environ 6-8 000 ans, et aussi un peuple venu des steppes de l'âge du bronze, donc il y a 5 000 ans, les Yamnaya, qui sont venus de l'Est, et donc un Européen et un mélange de tous ces courants migratoires, et moi je trouve ça fascinant.
Autour de la question à quoi jouent nos gènes et pourquoi certains gènes d'autres espèces humaines que la nôtre, depuis longtemps disparues, continuent de s'exprimer chez certains d'entre nous, on continue de s'interroger autour de votre choix musical, Evine Hier. Du côté des monts Altaï, vous nous direz ensuite pourquoi vous avez eu envie d'écouter les fabuleux chants de gorge de Touva. Nous, on a choisi un chanteur et rockeur du groupe Yatka. Il s'appelle Saïdash Mongouche et il chante la taïga. On s'y croirait dans la taïga avec le chant de gorge du musicien et rockeur de Touva, Saïdash Mongouche, sur RFI. Pourquoi ce très beau et très étonnant choix musical, Evelyne Heyer ?
Ah bah parce que je suis allée plusieurs fois dans ces régions, justement pour mes travaux de recherche de terrain. Parce que pour
en génétique des populations.
Oui, c'est ça. Je suis allée, j'ai eu la chance d'aller dans ces endroits-là pour monter des projets de recherche avec des chercheurs sur place et pour avoir un échantillon de la diversité dans ces régions du monde qui sont très intéressantes parce qu'ils ont des modes d'organisation sociale qu'on dit patrilocale et patrilinéaire. C'est-à-dire que quand un homme et une femme viennent de village différent, ça va être la femme qui va bouger pour aller vivre chez l'homme. Et en plus, ils ont des systèmes de clans, de tribus qui passent par les hommes. Et donc, comme je vous ai dit, on est une espèce migrante, mais il y a une grande partie des migrations qui sont ces petites migrations de proche en proche et qui sont justement liées au système de parenté, à la manière dont on choisit de se marier, à la manière dont on vit en société, à la manière de faire famille. Et donc l'idée c'était d'aller explorer dans cette région du monde comment les migrations se faisaient, et ce qui a permis bien sûr de confirmer, comme dans beaucoup de régions du monde, que ce sont les femmes qui migrent. On est une espèce où ce sont surtout les femmes qui migrent et non pas les hommes, et aussi d'explorer en quoi les paramètres comme la langue pouvaient jouer sur le choix du conjoint. Et effectivement, on va préférer se marier avec quelqu'un qui parle la même langue, même s'il vit loin, plutôt que de se marier proche avec quelqu'un qui parle une langue différente.
On voit là les liens qu'il y a et que vous soulignez entre culture et génétique, évidemment pour nous, et on voit aussi l'intérêt d'être généticienne des populations, ce qui vous fait travailler d'être anthropologue aussi, à la fois sur les liens de parenté, sur la manière dont on se marie, dont on fait des enfants, dont on parle des langues, tout ça est extrêmement lié.
Tout à fait. Et c'est ce que j'aime. C'est ce qu'on appelle vraiment de l'anthropologie. Donc c'est fondamentalement pluridisciplinaire.
À partir de la génétique.
Oui, j'ai comme outil la génétique pour finalement révéler des histoires sociales des individus. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que certaines histoires sociales ou culturelles donnent des signaux dans la diversité génétique. Ça ne veut pas que ça devient génétique, la manière, le fait de parler une langue, ce n'est pas codé génétiquement, mais le fait de plutôt se marier proche ou loin, etc., on va le retrouver dans les données génétiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce d'exploration pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'articule, et aussi maintenant, avec les données de paléogénomique, d'utiliser ces outils qu'on a développés sur des populations actuelles pour essayer de comprendre comment vivaient les populations du passé, comment elles se mariaient, si elles échangeaient, oui, entre cousins, les femmes qui bougeaient, les hommes, est-ce qu'elles étaient dans des sociétés avec des clans et des lignages ou pas. Donc voilà.
Autour de la question jusqu'où nous entraîneront nos gènes, grâce à vous, Evine Eyer, qui publiait chez Flammarion La vie secrète des gènes, ouvrage dans lequel on découvre aussi, alors en poussant comment dire, le bouchon encore plus loin, que nous ne sommes pas faits que de nos gènes, justement. 25 000, hein, vous l'avez dit, au bas mot. Et ça, c'est un de vos collègues, professeur au muséum, le microbiologiste Sébastien Duperron, co-auteur de La vie en milieu extrême, qui nous l'avait fait remarquer ici même. On écoute donc Sébastien Duperron pour savoir pourquoi nous ne sommes pas que nos propres gènes.
Moi, je dis qu'on est aussi ceux de nos bactéries, parce qu'en fait, les bactéries qu'on a dans notre tube digestif, elles sont tellement diverses, il y a plus de 1000 espèces différentes, que leur génome, en fait, c'est plusieurs centaines de fois le nôtre en contenu de gènes. C'est-à-dire que si on fait l'inventaire des gènes qu'on trouve chez un humain, on va trouver quelques dizaines de milliers de gènes qui lui appartiennent et quelques centaines de milliers qui appartiennent aux bactéries qu'il colonise. Dans nos gènes, on est plus bactérien que humain.
Plus bactérien qu'humain dans nos gènes. Vous confirmez, Vinéa?
Alors, moi, je ne me souviens pas des valeurs. Hein. Donc,
on ne va pas être dans les chiffres.
On ne va pas être dans les chiffres, mais c'est vrai qu'on a de la flore intestinale, du microbiote, mais on a aussi du microbiote sur la peau, etc. Et justement, j'ai une collègue au labo, Laure Ségurel, qui avait monté un beau projet qui s'est malheureusement interrompu à cause de la Covid, pour essayer de comprendre pourquoi certaines populations arrivaient à digérer le lait d'une manière bien particulière en s'aidant de la flore intestinale.
Ah, parce que, alors là, revenons et arrêtons-nous sur cette question. Les humains adultes dans beaucoup de populations ne digèrent pas le lait, ne digèrent plus le lactose. Ça, c'est quelque chose qu'on...
En fait, on est un mammifère. Chez tous les mammifères, les petits digèrent le lait, mais les adultes ne le digèrent pas. Une vache, elle ne boit pas de lait. Le veau, oui, il boit du lait. La vache, elle n'en boit pas. Ce qu'on appelle digérer, ça veut dire casser le gros sucre du lait qui s'appelle le lactose en plus petits sucres, le glucose et le galactose.
D'accord. Tous les mammifères adultes,
Les adultes, ils ne digèrent pas le lait. Mais il y a quelques populations humaines où les adultes digèrent le lait. Et en fait, il a été trouvé que c'était une mutation qui s'appelle dans un gène, enfin bref, qui permet à cette lactase, c'est-à-dire à continuer à digérer le lait quand on est adulte.
Il y a plusieurs mutations. Ce qui peut être utile pour des populations de pasteurs ou pour des populations qui ont des animaux et qui boivent leur lait pour survivre.
Et en général, quand on a fait les études génétiques, en faisant des calculs, on arrive à montrer que ça correspond à peu près en Europe, par exemple, au néolithique, au moment où on s'est mis à domestiquer les animaux et à boire du lait frais. Et ça a entraîné, au fil des générations, une augmentation de la fréquence de ces mutations qui permettent aux adultes de digérer le lait. On retrouve la même chose avec d'autres mutations en Afrique. On trouve au Moyen-Orient, mais dans l'Asie de l'Est et notamment dans toute la Mongolie et le sud de la Sibérie, il n'y a pas cette mutation qui permet de digérer le lait. Or, ce sont des populations qui, traditionnellement, utilisent beaucoup de produits lactés. Uh-huh. Et du coup, deux hypothèses pour expliquer ça. D'abord, ils utilisent surtout des produits lactés tout de suite fermentés. Et c'est le cas, par exemple, le lait de jument qui peut être utilisé fermente naturellement très fort. Mais enfin, il reste quand même du lactose à digérer. Et deuxième hypothèse, c'est effectivement qu'ils auraient une flore intestinale particulière qui permettrait de digérer facilement ces produits lactés sans avoir la même mutation qu'ont les populations, par exemple, du nord de l'Europe.
Étonnant. On aurait donc des alliés génétiques. Il y aura des alliés avec nos bactéries.
Et notre flore intestinale nous aiderait pour tout ça.
Qu'est-ce qui vous... Parce que c'est assez fascinant quand on travaille comme vous sur l'ADN, l'ADN ancien, l'ADN actuel, la génétique des populations, l'anthropologie. Qu'est-ce qui vous fascine le plus sur ce que nous apprend l'ADN, ce que vous apprend l'ADN, la génétique aujourd'hui, alliée, donc on l'a bien compris, soit à la préhistoire, soit à la paléontologie, soit parfois à la médecine ou à l'anthropologie
Alors moi, ce qui me fascine, c'est effectivement qu'il y a un truc que je trouve complètement grisant si on y réfléchit, c'est qu'on est les descendants de lignées d'individus, et avant, c'était même pas des humains, qui ont eu l'énorme coup de bol de survivre et de se reproduire. On est quand même les descendants de gens qui ont résisté, qui sont passés à travers la peste du XIVe siècle, à travers je ne sais pas quelle épidémie il y a 8000 ans.
Quel changement climatique aussi.
Climatique, qui ont su résister à tout ça. Et je trouve que quand on se projette un peu, comme vous voyez, quand on regarde un ciel avec des étoiles, ouais, ça a un côté vertigineux, je trouve que quand on se projette dans nos ancêtres comme ça, dans le passé, ça a un côté complètement vertigineux. Et c'est d'autant plus vertigineux qu'on a les mêmes ancêtres. On est tous cousins. Donc, on est les descendants de finalement peu d'individus qui ont eu les coups de bol de survivre, etc. Et on les partage. On a des ancêtres en commun. On est tous cousins beaucoup plus proches que ce qu'on pense.
C'est quoi ? C'est une réflexion presque philosophique, ça aussi, hein ? Et qui implique des choses pour aujourd'hui.
Ah bah oui, ce serait une autre manière de voir le monde.
Autour de la question « À quoi jouent nos gènes ?» Evelyne Heyer, vous n'allez pas être fâchée si l'on vous propose tout de suite d'écouter Rachid Tah, parce que lui aussi, il partageait plutôt le regretté Rachid Tah. Cette certitude, c'est que nous sommes tous cousins et que nous sommes tous issus d'Afrique et fiers de l'être. Rachid Tah sur RFI.
Je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain. Je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Africains, tous africains, avec Rachid Tah sur RFI, tous cousins, vous nous avez dit aussi, Evelyne Heyer, et tous issus d'une lignée de quelques ancêtres communs qui ont résisté à tout. finalement.
Oui, tout à fait. Puis on peut dire on vient tous d'Afrique il y a plus ou moins longtemps. Quoi.
C'est ça, ça c'est une certitude. Oui, il n'y a pas beaucoup de certitudes, mais ça c'en est une.
Ah non, mais celle-là, il y en a... Oui. Non, mais il y a quand même beaucoup de certitudes hein, en science. Hein. On présente surtout les choses sur lesquelles on se pose encore des questions.
C'est ça,
mais il y a quand même
travailler.
Beaucoup de choses qui sont maintenant bien établies.
Une certitude, on vient tous d'Afrique. Il y a eu des allers-retours d'ailleurs.
Oui, il y a eu des allers-retours. Et puis il y a peut-être eu des... On dit tout le temps, bon, on est sorti d'Afrique il y a 60-70 000 ans. Mais il y a eu visiblement des sorties avant. On en retrouve des traces dans le génome de Néandertal, etc. Donc c'est, bon, c'est toujours un peu plus complexe. Mais c'est vrai que pour l'essentiel, les populations à l'extérieur de l'Afrique viennent vraiment d'Afrique il y a environ 70 000 ans. Et à l'intérieur de l'Afrique aussi, il y a eu beaucoup de mélanges entre les populations. Nous, on a pu monter des programmes sur des populations que l'on dit chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale.
Notamment chez les pygmées.
Oui, ça, c'est ça. C'est le nom que nous, Européens, donnons à ces groupes. Hein, sinon, c'est des bakas, des haka. Enfin, bon, voilà. Et effectivement, on voit aussi dans leur génome, en comparant avec d'autres populations africaines, l'extraordinaire richesse de l'histoire des populations en Afrique qu'on commence à connaître. Avec là, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données, cette fois-ci, de paléogénétique, parce que dans tout le bassin, je dirais, de l'Afrique centrale, les os se conservent très mal.
Bien sûr, c'est de la forêt.
Donc ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on a une vision assez parcellaire de ce qui s'est passé en grande partie de notre évolution en Afrique. On a là où on trouve des fossiles, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et maintenant en Afrique du Nord. Mais au milieu, on aimerait savoir, quoi.
Oui, on aimerait savoir. Et pourquoi, finalement, ce que disent les généticiens, c'est qu'au fond, la plus grande diversité génétique au monde, elle est sur le continent africain.
Tout à fait. En fait, nous...
Et ça, ça paraît contre-intuitif.
Oui, mais en fait, c'est tout simplement que quand des humains sont partis d'Afrique et petit à petit ont colonisé le monde, ils n'ont pas pu amener toute la diversité génétique qu'il y avait en Afrique. On estime qu'il y a environ 10 000 individus, grosso modo, l'équivalent de 10 000 individus qui sont partis à l'extérieur de l'Afrique.
Pour coloniser toute la Terre.
Voilà, par définition, ils n'ont pas pu amener toute la diversité. Donc, le gros de la diversité génétique est en Afrique, oui. Ça, c'est clair.
Alors, pour continuer aussi dans les liens entre culture et génétique, un chapitre étonnant de votre livre aussi concerne, nous les femmes, et concerne tous les bipèdes que nous sommes. C'est en devenant bipède que les femmes ont eu des gros soucis pour accoucher. Mais qu'est né, quoi ? Le lien social, l'empathie
Ouais, enfin, bon...
J'ai un peu vite.
Oui, mais bon, on peut le... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours de l'évolution, il y a environ 2 millions d'années, on est tout le temps bipède. Avant, on l'est, mais pas tout le temps, mais là, on commence à être vraiment carrément tout le temps bipède. Et pendant ce temps-là, en parallèle, il y a la taille du cerveau qui a augmenté. Et donc, la bipédie, ça bloque un peu le bassin par où on peut avoir l'accouchement. On est une des espèces qui a un accouchement les plus compliqués, les
c'est
plus
ça,
difficiles.
C'est ça, avec un bassin tout petit pour
avec
faire passer une grosse tête.
Mmh. Et donc, on va dire que, voilà, comment la sélection naturelle a réglé ça, entre guillemets, c'est de nous faire naître immatures. C'est-à-dire que le bébé humain est beaucoup plus immature que le bébé chimpanzé, que le bébé gorille, etc. On n'a que 25% de la taille de notre cerveau à la naissance. Et donc après, quand on va maturer, le moment où le cerveau continue à pousser, à faire plein de connexions, on est dans un environnement social. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement social. On est un animal social. Bon, les autres grands singes le sont aussi. En plus, j'ai plein de collègues qui travaillent sur les grands singes. Donc, non, singes aussi.
Sont aussi sociaux. Mais nous, aussi... on se construit avec les autres.
Oui, on se construit avec les autres. Et c'est à ce moment-là on apprend le langage, etc. Et on le voit, quoi. On est vraiment un animal très, très social.
On a besoin des autres, de tous les autres. Donc, on est une espèce migrante, une espèce sociale qui avons besoin des autres. Alors, c'est notre espèce, Homo sapiens en tout cas, qui a réussi à coloniser toute la Terre. Est-ce qu'on pourrait s'adapter ailleurs ? Génétiquement, qu'est-ce qui se passerait ? Evelyne Heyer, attendez avant de me répondre, parce que c'est mon jeune confrère de Ciel et Espace, Guillaume Langin, qui vous pose la question.
Il y a deux frères jumeaux américains astronautes, les frères Kelly, il me semble, dont l'un a séjourné très longuement dans l'espace quand l'autre restait au sol. Qu'a-t-on appris de leur expression génétique à l'un et à l'autre de ce long séjour ? Et est-ce que, en fait, même plus largement, l'espace peut affecter notre génome ?
Est-ce qu'on en sait quelque chose, Evine Hier ? Comment est-ce que l'espace affecterait notre génome ? Est-ce qu'on est uniquement terrestre ? Est-ce qu'on pourrait...
Non, alors il y a des choses qu'on sait. On sait que s'il y a un groupe d'humains qui part de la Terre, qui ne revient pas, par exemple une centaine ou 200, et qui vont par exemple s'installer sur une autre colonie, Mars, etc., on sait qu'au fil du temps, de génération en génération, on va accumuler des différences parce qu'il y a sans arrêt des petites mutations qui apparaissent. Et donc, on sait que c'est comme ça qu'on peut créer, à la limite, une nouvelle espèce.
C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura une grosse différence entre ceux qui sont partis et ceux qui seront restés
alors,
sur Terre.
Alors, par contre, on va vous donner l'échelle de temps. Par exemple, Néandertal et Sapiens, c'est 600 000 ans. Quoi.
Ah oui, ouais, d'accord, donc ce n'est pas tout de suite.
Pas tout de suite. Ouais, bon, ouais. Alors, si on a un groupe plus petit, ça va plus vite.
Hein, si on a un groupe
si on n'est que 100-200, ça va aller plus vite que Néandertal, Sapiens, on pense quand même à cette époque-là, c'était plutôt dans des dizaines de milliers d'individus. Donc ça va aller un peu plus vite, mais ça va prendre quand même du temps. Donc alors voilà, il y a cette partie-là, et puis après il y a la partie, est-ce que si on vivait longtemps sur d'autres planètes, est-ce qu'on s'adapterait à l'environnement ? Bah, certainement, mais on ne sait pas dans quel sens, parce que les mutations, elles apparaissent au hasard. Donc on ne peut pas prédire dans quel sens vont aller les mutations.
C'est ça, on peut finalement remonter le temps, mais on ne peut pas du tout prédire ce qui va arriver.
Alors, il y a des choses qu'on peut prédire. Hein. On sait qu'on ne va pas avoir les jambes qui vont s'atrophier parce qu'on ne marche pas, ou avoir un sixième doigt parce que c'est plus pratique sur une tablette. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionnera pas.
Non,
c'est
pas
ça. Par contre, on est en train de perdre nos dents de sagesse, ça oui.
Oui, on est en train de perdre nos dents de sagesse, mais ça, on ne sait pas si c'est vraiment le hasard ou si c'est vraiment de la sélection. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on est, et dans l'extraordinaire même biodiversité, où on met toujours en avant que les impressions qu'on a, où c'est très adapté pour faire ça, il y a aussi beaucoup de choses qui sont là juste par hasard. Quoi.
Et qui ne marchent pas si bien que ça.
Et qui ne marchent pas si bien, pas si mal, ça va. Donc,
on n'est pas des machines. On est, et je trouve que c'est aussi un paradoxe de toutes ces études génétiques. C'est-à-dire qu'on est à la fois tous semblables, enfin avec le même matériel génétique au départ, et en même temps, tous différents, tous singuliers, tous uniques. C'est vraiment le propre du vivant, donc le propre de l'ADN aussi, ça.
Oui, c'est ce qu'il y a de génial avec l'ADN, hein. C'est que ça permet à la fois de faire des choses semblables, mais légèrement différentes.
C'est ça.
Et du coup, c'est ça qui fait cette diversité et cette richesse. Et quand les choses deviennent, quand les individus d'une population deviennent très différents, ça forme des nouvelles espèces. Et après, les espèces, elles disparaissent parce qu'elles se transforment. Et donc, c'est très, très dynamique. C'est pour ça que, par exemple, dans tous mes collègues qui travaillent sur la biodiversité, disent qu'il y a d'important, c'est pas de conserver la biodiversité en tant que telle, c'est de conserver la capacité d'évoluer de la biodiversité.
Une biodiversité qu'on retrouve à tous les étages, en fait. Enfin, c'est-à-dire qui est importante et essentielle à tous les étages et à l'intérieur de nous-mêmes aussi.
Et même à l'intérieur de nous-mêmes. La flore intestinale, c'est vraiment aussi, ça fait partie de la biodiversité à l'intérieur de l'humain.
C'est quand même des champs de recherche extraordinaires. Alors, sur quoi travaillez-vous aujourd'hui, Evine Hier ? Vous faites beaucoup de choses, vous dirigez un groupe de recherche. Je sais que vous aviez pas mal de projets avant la Covid-19. Est-ce que vous pouvez continuer, par exemple, à les collecter, les populations, les génomes, les gènes d'autres populations pour comprendre les liens de parenté ou...
Alors, sur quoi avez-vous envie de travailler ? Pendant la phase Covid, j'ai plutôt orienté sur des choses un peu plus théoriques. Donc, utiliser tout ce qu'on a appris sur les populations actuelles pour essayer de comprendre les populations du passé. Donc, c'est vrai que dès que je peux, je vais retourner sur le terrain. J'ai la chance, là, il y a une chercheuse, Patricia Ballares, qui m'a associé à un de ces gros programmes où on va aller explorer les différences d'audition des populations à travers le monde et regarder s'il y a des adaptations.
Les différences d'audition, c'est-à-dire que ça se voit...
Comme quand vous allez chez l'ORL. Comme vous allez chez l'ORL, on peut mesurer les fréquences que peuvent entendre des gens. Et la question va être, bien sûr, que s'il y a des différences entre les populations, est-ce que c'est des adaptations anciennes génétiques ou est-ce que c'est juste des choses qui se jouent au niveau de la vie de l'individu ? Mais j'aimerais bien aussi aller explorer la Polynésie parce qu'ils ont des systèmes de parenté intéressants avec de la parenté biologique, mais de la parenté sociale parce qu'il y a beaucoup d'adoptions. Explorer les liens entre les différentes populations autour de ça. voilà, j'ai plein de...
Il y a plein de pistes, oui. Plein de pistes de recherche et qui sont autant à partir de l'ADN actuel, des populations actuelles, mais qui permettent aussi d'éclairer à la fois le passé, le présent et d'autres... des rapports de société aussi.
Oui, moi j'ai adoré, par exemple, comme vous le citiez, l'exposition sur le racisme, nous et les autres,
nous et les autres, préjugés, au musée de l'homme.
Voilà. C'est extraordinaire aussi de pouvoir réfléchir en quoi notre science peut apporter dans la construction sociale, dans ce qu'on est, dans comment on vit. C'est-à-dire, j'adore la recherche fondamentale, je le cache pas. J'adore aller sur le terrain et explorer des autres manières d'être, mais j'adore aussi réfléchir à comment tout ça peut aider à participer à notre vivre ensemble.
Et pour participer à notre vivre ensemble, que pensez-vous de ces tests? Je sais qu'on vous pose souvent la question, mais de ces tests génétiques que l'on peut faire pour savoir un peu nos origines. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est maintenant démocratisé? Tout le monde peut le faire? Est-ce que ça peut aider peut-être à prévenir certaines maladies? Est-ce que c'est juste un jeu? Qu'est-ce que vous en pensez, Vinayère?
Alors, c'est quelque chose qui m'a fascinée dans l'arrivée de ces tests d'origine génétique. Bon, je ne vais pas aller dans le détail de pourquoi c'est bon ou pas bon, techniquement, il faudrait... Voilà. Mm-hmm. Mais c'est comment ça a été utilisé à la fois par des mouvements alt-right, donc d'extrême droite aux États-Unis, pour mettre en avant une blanchitude plus blanc que blanc, et en même temps utilisé par d'autres individus qui montraient « Oh, c'est super, j'ai plein d'ancêtres migrants ». Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fascinant comment le même outil, le même savoir pouvait être utilisé et perçu de manière si différente selon les individus. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que l'identité qu'on peut retracer à partir de données génétiques ne doit pas primer. C'est une des identités. Elle n'est pas meilleure que les autres parce qu'elle est basée sur du génétique et sur des données scientifiques. Donc, premièrement. Et deuxièmement, faites bien attention là où vous laissez votre ADN.
Ah oui, parce qu'on en laisse et qu'après...
Et qu'après, ça peut être utilisé de la manière dont vous n'auriez pas souhaité. Par exemple, maintenant, dans les bases de données aux États-Unis, on peut coupler les données d'ADN et les données généalogiques, donc retrouver des cousins. Si votre ADN est utilisé pour retrouver un serial killer, je pense que tout le monde est assez d'accord pour trouver ça très bien. Mais si c'est pour envoyer en prison une jeune femme qui a dû aller avorter dans l'État d'à côté, parce que c'est interdit dans son État, je pense qu'on serait moins fiers de l'utilisation de son ADN. Or, il n'y a rien qui permet, une fois que vous avez donné l'autorisation d'utiliser votre ADN, vous n'avez plus de droit de regard sur la manière dont il est utilisé. Donc, il faut être vigilant quand même.
Soyons vigilants et surtout, ne nous réduisons pas ni à nos gènes, ni à notre couleur de peau, ni...
les identités multiples, peuvent changer, quoi.
Merci de le dire. Merci infiniment, Vinayère, de nous avoir fait partager un peu de votre science et de votre sagesse génétique et anthropologique. Et surtout, nous avoir ouvert l'esprit en tordant le cou à certaines idées qui, malheureusement, ont la vie dure. Je ne saurais trop conseiller à nos chers amis auditrices et auditeurs la lecture de votre dernier ouvrage paru chez Flammarion, La vie secrète des gènes. Je vous renvoie aussi, si vous ne l'avez pas lu, sur L'Odyssée des gènes, toujours aux éditions Flammarion, traduit déjà dans une dizaine de langues. Et puis aussi sur une BD, Comment devient-on raciste, inspirée par votre exposition Nous et les autres dont on a parlé, que vous aviez montée au Musée de l'Homme. Et c'est le jeune auteur et illustrateur de bande dessinée Ismaël Méziane qui en a fait une super BD chez Casterman. Merci Evelyne, vous revenez quand vous voulez, on en a besoin, on a envie aussi, donc à bientôt.
Merci.
Réécoutez Autour de la question sur l'application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion à 23h, temps universel. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Autour de la question, pourquoi faire une histoire naturelle du silence? Du silence à la radio? Ah oui, mais en compagnie du formidable bio- et éco-acousticien Jérôme Sueur, nous aurons intérêt à ouvrir grand de nos oreilles à l'écoute du silence, mais aussi des sons du monde. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Ici comme ailleurs, à l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure de retrouver les informations.